With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Moi, je pense que tout le monde est artiste, en fait. Je pense que tout le monde a ce truc de création en lui. C'est juste qu'à un moment, les gens le perdent.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
Je me suis jamais posé de questions, tu vois. J'avais juste besoin de créer. Évidemment que j'ai des envies de grandeur, comme tout le monde, tu vois.
N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute.
Et donc, je crois que c'est bon. Moi, j'ai fait l'erreur de sortir hier soir. Donc, le café est bienvenu.
Ça me manque, ça.
Tu sors plus ?
Bah non, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 2-3 semaines.
Ah, j'ai cru que t'allais venir 2-3 ans.
Non, pour sécher. Parce que je me suis un peu fait plaisir cet été, et là, il faut que je rentre dans mon costume de mon émission, quoi. Et donc, faut que je perde du poids et que je sèche. Et je ne bois plus d'alcool depuis 3 semaines et c'est horrible. Et je vis par procuration.
Ah ouais?
Quand je vois les gens boire, j'imagine le goût que ça a. C'est horrible.
Ça te manque?
Ouais, de ouf.
Et t'imagines, tu leur demandes leurs histoires de soirée?
Ouais, et puis je sors pas, tu sais, pour pas bouffer gras, pour pas bouffer de la merde et tout. Donc, je suis comme un moine guerrier, là, pendant 4 mois. C'est horrible.
Ouais, mais en fin de compte, ça fonctionne bien, non? Moi, j'essaie de moins boire en ce moment pour
ça marche. Hein.
Pour bosser.
Ouais.
Ça marche plutôt bien, non?
C'est un peu horrible. Ouais.
Et bah, du coup, salut, monsieur Poulpe.
Bonjour, tu me serrais la main?
Non, je voulais.
J'ai pas compris le move.
Non, c'était le move vers le chien.
D'accord.
Qui est trop mignon.
C'est Gordon. Cette interview sera accompagnée de Gordon.
Salut, Gordon. Et donc, monsieur Poulpe, bienvenue sur Nouvelle École. Je sais pas comment te définir, parce qu'en fait, vu que tu fais énormément de choses différentes. Tu dis quoi aux gens qui te disent
le nom?
Qu'est-ce que tu...
D'où le blaze, hein, finalement.
Ouais. J'ai vu que ça venait de là.
Ouais.
C'est vieux, non? C'est un vieux blaze?
Ça date du collège, ouais. Monsieur Poulpe date du collège. Après, comment me définir? Je sais pas. Moi, j'aime bien dire un truc, mais ça fait, en fait, ce mot-là ne veut plus rien dire. Mais j'aime bien dire que je suis artiste. Mais.
Ah ouais, tu dis vraiment
à
ça?
À notre époque, là, maintenant, je crois que ce mot ne veut plus rien dire. Quand on dit artiste, je pense qu'on pense à un mec dans un atelier qui peint avec ses couilles et que personne s'intéresse à lui, tu vois. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça, mais du coup je crois que ça me va bien.
Il y a pas aussi un côté où moi j'ai l'impression que j'oserais pas dire je suis artiste, parce que j'aurais l'impression que, tu sais, c'est d'un seul coup, c'est genre dire que ce que tu fais c'est trop stylé,
c'est de l'art.
Ouais,
ça, ah
parce,
oui.
Parce que je fais de l'art.
Mais je pense, mais là c'est mon ego, hein, je pense que je fais de l'art. Après il est dégueu, mais c'est important qu'il existe aussi, cet art là
En quoi il est dégueu?
Je fais quand même beaucoup de choses qui sont quand même au niveau du caca ou du sexe ou de l'humour un peu trash. Mais je pense que c'est important d'avoir cette fenêtre-là aussi, tu vois, vers l'autre art.
Ouais, puis c'est quelque chose qui existe dans l'art en général aussi, non?
L'art, caca et le sexe, oui.
C'est, oui, c'est ça, ouais, c'est, ouais, c'est pas que des tableaux de 20 mètres sur 20 mètres au Louvre, quoi.
Oui.
C'était quelque chose, c'est quelque chose de conscient. Enfin, c'était ce que tu avais envie de faire ou c'est quelque chose de conscient quand tu dis d'ouvrir cette fenêtre?
En fait, je me rends compte que je me radicalise avec l'âge dans le fait de toujours proposer autre chose. En fait, c'est pas conscient du tout, c'est juste que je suis incapable de faire d'autres trucs. J'ai été auteur pour des trucs un peu plus sérieux et tout, mais je me rends compte que je m'emmerde vraiment, donc je le fais pas. J'ai la chance de pouvoir choisir mes projets, donc je le fais pas. Et je reste dans le truc qui me fait rire avant tout. Et après, j'ai jamais réfléchi en amont, tu vois, en me disant il faut que je fasse des trucs chelous. Ça, c'est au début de ta carrière. Généralement, tu réfléchis pas et tu fais. Et plus t'avances dans ta carrière, ben, plus tu réfléchis avant de faire. Et maintenant, je me rends compte que je me dis, tu vois, par exemple, je vais sortir une BD l'année prochaine. Je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent, enfin, qu'est-ce qui ne se fait pas dans le milieu de la BD et qu'est-ce qui serait important de faire pour proposer une alternative. Et du coup, voilà, je suis parti dans ce principe-là avec Davy Mori, on va sortir une BD dans ce côté un peu, on bouscule un peu le truc, quoi.
Donc, c'est ça que tu fais avant de créer quelque chose, c'est que tu te dis comment je fais quelque chose de différent?
Ouais, parce que on est tellement, il y a tellement d'humoristes, il y a tellement de séries télé. Enfin, moi là, j'ai fait une overdose de Netflix, tu vois, par exemple.
Ouais, je regarde plus non plus. Ouais.
Maintenant, quand j'ouvre Netflix, j'essaie de trouver le truc que j'ai pas vu, tu vois. Et j'ai tout vu en fait. Donc, il y a tellement de trucs, on est tellement abreuvé que t'es obligé maintenant, quand t'as la prétention de vouloir proposer quelque chose au public, t'es obligé de te poser la question de bah qu'est-ce que je peux faire d'original. Enfin, essayer en tout cas d'être original, quoi. Et puis d'avoir un, sans péter plus haut mon cul, mais d'essayer d'avoir un petit peu de réflexion et de fond, tu vois, dans ce truc-là, quoi. Tout en faisant de la blague débile, mais en tout cas d'en proposer d'autres, quoi.
Tu veux dire qu'au début, t'avais pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose de différent? Naturellement, t'allais faire ça?
Ouais, tu te poses pas la question. Au début, t'as qu'une envie.
Parce que t'as commencé
créer,
super tôt, toi. Je crois que ta première vidéo, tu l'as mise sur le web en 98, un truc comme ça.
C'est ça, ouais. Mais moi, j'avais commencé avant déjà. Moi, j'ai ma première vidéo, elle était tournée dans le jardin avec mes copains. J'avais 8 ans. C'est mon premier, on peut pas dire court-métrage.
Et vous faisiez quoi? C'était quoi cette vidéo?
Moi, en fait, je viens vraiment des films d'horreur, des films d'action des années 80. Donc, c'est vraiment, c'était que des trucs comme ça, avec des effets spéciaux tout pété avec du ketchup. Et dès le début, ça a été des films d'horreur nuls, tu vois. Et après, je suis toujours resté dans ce truc-là, moi. Je suis toujours resté dans ce truc de genre, tu vois, de cinéma de genre, même quand tu vois tous mes sketchs du studio Bagel, c'est des trucs avec des serial killers, des aliens, des machins, des trucs. Donc, je suis toujours resté dans ce truc-là. Mais en tout cas, oui, à partir de 97, 98, c'est arrivé sur le net.
Et donc, au début, c'était vraiment naturel, quoi, dans le...
Ouais, je me posais pas du tout de questions. J'avais juste besoin de créer. Que ce soit en vidéo, mais à côté de ça, j'ai dessiné, j'écrivais, enfin, j'ai fait 1000 doses, tu vois, mais.
Il n'y avait pas la question s'était pas posée d'un parcours plus classique ou d'études.
Non, j'ai arrêté les études j'ai pas mon bac, moi, j'ai arrêté au niveau du lycée, pour être graphiste web, freelance.
Ah ouais, en freelance?
Ouais. Et bah, à l'époque, en fait, tu pouvais. Il y avait vraiment personne, en fait. Je te parle de ça, c'était en 98, 99. C'était au moment du phénomène des startups, tu sais, avant que l'Internet se casse la gueule. Et donc, tu pouvais bosser au black facilement. Mais ouais, je me suis jamais posé de questions, tu vois. J'avais juste besoin de créer.
Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que... Plus tu crées, moins c'est naturel le prochain projet?
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu grandis et t'as des besoins. Donc après, tu te dis, il faut que je crée, mais avec de la thune. Tu vois, c'est juste ça le truc. Après, faut créer intelligemment pour pouvoir en vivre. C'est plus ça.
Alors vas-y, c'est quoi créer? C'est une vraie problème. Enfin, c'est une vraie question que je me pose beaucoup. Tu vois, pour l'instant, c'est cool. J'ai rien. Je vis en sous-loc avec des gens qui sont sympas. J'ai juste un chat. J'achète des croquettes, mais moi, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, tu vois.
Ouais.
Donc, par exemple, pour l'instant, je refuse de mettre de la pub là-dessus parce que j'ai pas envie. Mais en fait, je sais bien que, enfin, je critique pas les gens qui mettent de la pub parce que je sais bien que si j'avais, par exemple, ne serait-ce qu'un stagiaire,
ouais,
ou je sais pas, si j'avais besoin de manger pas que des pâtes, bah faudrait que je mette de la pub parce que j'aurais pas d'autres moyens vraiment.
Alors déjà, est-ce que à Nouvelle École, t'as des propositions de pub?
Ouais, j'en ai eu. Ouais.
Oh merde, je pensais te vanner. Ok, t'en as.
Pourquoi?
Je voulais que tu dises bah non, et je fais bah ouais, bien fait pour ta gueule, et que je fasse un drop the mic. Non, écoute, moi je pense que tu devrais prendre de la pub. Ça te permettrait de, par exemple. Je sais pas, avoir des meilleurs micros, avoir du meilleur matos, je dis n'importe quoi. Je sais pas, hein.
Ouais.
En fait, le truc, c'est dans ça, dans toutes les carrières artistiques du monde, de l'histoire de l'humanité, c'est que tu commences et t'as un deuxième job. Moi, je pense que tout le monde est artiste, en fait. Je pense que tout le monde a ce truc de création en lui. C'est juste qu'à un moment, les gens le perdent. Tout le monde dessine, tous les enfants dessinent. Et puis à un moment, tu poses ton cahier, puis tu vas aller rouler des pelles à Stéphanie au fond du bus, tu vois, et tu t'intéresses à autre chose. Mais tout le monde est artiste. Il y en a qui gardent ce truc-là et qui continuent, mais qui, pour vivre, sont obligés d'avoir un deuxième job. Il y en a beaucoup qui font ça, et il y en a beaucoup qui continuent comme ça jusqu'à la fin de leur vie, et qui ont ce besoin de créer, tout en gardant un job, et en, voilà, et que ça prenne pas de place. Et puis, t'as les autres, ceux que tu vois qui sont maintenant des gens connus ou non, mais en tout cas qui en vivent pleinement. Il y a un moment où tu te dis, eh ben merde, en fait, faut que je lâche tout, faut que je lâche ma vie d'humain et que je me donne les moyens de vivre de ça. Et là, t'abandonnes ton job et tu te donnes les moyens et tu dois en vivre. Donc c'est là où la thune arrive. Et c'est là où tu te dis, il faut que ma création, je la fasse de façon à ce qu'il y ait de la thune et que je puisse en vivre pour le faire. Et là, bon, bah, il y a plein d'histoires différentes, tu vois, il y a plein de trajectoires différentes, mais.
Mais comment, est-ce que tu, par exemple, toi, tu vas plutôt avoir tendance à séparer les projets qui vont ramener de l'argent et les projets qui sont purement créatifs, ou est-ce que tu vas mixer dans un projet, enfin tu vois, est-ce que tu vas faire des projets qui du coup potentiellement sont vendables et peut-être sont pas exactement artistiquement ce que tu avais en tête?
Non, mais par exemple, tu vois, moi j'ai la chance que maintenant tous mes projets ils soient vendables, tu vois, parce que je me suis fait un nom et tout, donc c'est beaucoup plus simple. Mais par exemple, j'ai dans un coin de ma tête, j'ai deux ou trois trucs où je rêverais de les faire. Mais je sais que c'est impossible de trouver du financement et ça coûte cher à financer. Et du coup, je le fais pas et je suis frustré artistiquement quand je pense à ces trucs-là. Mais à côté de ça, j'ai plein d'autres trucs qui m'éclatent, tu vois. Mais il y a des trucs où je sais que le problème, c'est que c'est même pas une question de financement. C'est je sais que même le public me suivrait pas, tu vois. C'est que ça serait juste pour me faire kiffer, moi, une série française avec des ninjas qui se battent contre des vampires. Je pense qu'on serait 500 à aimer regarder ce truc-là en France, mais c'est tout, tu vois.
Tu crois que maintenant t'es sûr de ton coup quand tu penses que le public te suivra pas, par exemple?
Ouais.
Ouais.
Ouais, je sais, j'arrive, j'ai assez roulé ma bosse dans le chelou pour savoir quand c'est trop chelou.
Tu vois. Est-ce qu'il y a aussi le côté où est-ce que c'est pas parfois quand tu dis que c'est juste pour te faire kiffer, est-ce que c'est pas parfois quand tu fais justement que pour te faire kiffer, que tu sors des trucs auxquels personne n'avait pensé et où justement tu vas créer quelque chose de vraiment différent et de nouveau, un peu comme au début quand tu y penses pas, quoi.
Oui, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, après il y a quand même la réalité de la diffusion, tu vois, mine de rien, on est encore esclave des diffuseurs. Alors évidemment en télé, mais surtout au cinéma et sur Internet. Tu peux plus maintenant, en 2018, tu peux plus créer une chaîne YouTube en te disant « Ok, je mets 500 000 balles et ça va marcher ». C'est pas possible. Il faut avoir un système de diffusion pour être vu et pour, enfin, tu vois, il y a tellement de gens qui proposent du contenu.
Après, tout dépend ce qu'on appelle marché. Toi, marché, c'est quand tu dis marché, c'est rentable financièrement, par exemple? Ou que ça devienne gros, ou...
Oui, les deux, en fait. C'est que ça soit vu et que ça soit financé. C'est important parce que, il y a quand même, enfin, tu vois, avant, quand j'ai commencé et que je faisais mes premières vidéos sur le net, évidemment, ouais. Ou même sur NoLife, évidemment, tous les techniciens, tous les gens qu'on ne voit pas à l'image n'étaient pas payés et le faisaient pour l'amour de l'art. À partir du moment où tu avances, enfin, mais ça, tu peux pas le demander à ces gens-là, tu peux pas demander gratuitement de revenir 800 fois. Il faut que les gens y vivent, tu vois, et surtout les gens de l'ombre qu'on voit jamais, qui est un truc hyper ingrat, quoi. Et du coup, tu peux pas aussi au niveau de ton équipe, tu peux pas ne pas te dire qu'il faut que tu chopes de l'argent pour les payer, tu vois, t'es obligé. Je l'ai fait deux fois, tu vois, sur deux projets. Mange mon geek et Nerds, où les gens n'étaient pas payés. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je peux plus, je peux pas faire ça, quoi.
Donc tu l'as fait et maintenant en fait t'as intégré que tu dois trouver à chaque fois une solution commerciale en fait,
t'es obligé.
Viable. Mais du coup ce
t'es
serait
obligé, mais sans non plus te vendre trop, tu vois. Il faut
justement, c'est comment tu fais ça? Parce que c'est ça qui est après qui devient compliqué, non?
Il faut qu'on te fasse confiance. Il faut que les gens qui te donnent l'argent te fassent confiance et se disent, bah je prends ce mec là parce que c'est lui et parce que je sais qu'il va faire un truc de qualité mais chelou, et voilà, et je lui fais confiance. Et il faut prouver ta valeur, tu vois, aux yeux des décideurs pour ensuite avoir la liberté.
Mais comme tu disais, quand tu disais qu'on est encore un peu esclave des diffuseurs, par exemple, forcément, quand t'as quelqu'un qui rentre dans un projet et qui, par exemple, met l'argent ou distribue le projet, il va avoir son mot à dire. Et donc, j'imagine que tu rentres, quoi qu'il arrive, dans des histoires de compromis parfois.
Mais heureusement.
Et comment tu fais pour pas là-dedans? Enfin, la ligne, elle doit être très floue de quand est-ce que t'as l'impression que tu perds un peu ton projet, tu vois?
Heureusement que ceux qui financent donnent leur avis, parce que sinon ça serait fou, tu vois, de tiens, je te donne 1 million et puis je m'en fous, enfin tu vois, ça n'existe pas. Donc moi je préfère, tu vois, des gens qui me financent, ça veut dire que déjà ils ont bon goût, tu vois, déjà ça veut dire qu'ils me font confiance, donc c'est des gens bien. Mais du coup, comme c'est des gens bien, je trouve ça important d'avoir leur avis, quoi. Ensuite, à quel point est-ce que tu peux laisser rentrer des gens dans ton idée, c'est à toi de l'estimer. Moi par exemple, il y a 5 ans, j'étais sur un long métrage que j'écrivais, où je devais le réaliser, genre le premier rôle et tout, et puis on est arrivé à un stade du développement où ça me correspondait plus et j'ai dit non, en fait on le fait pas, quoi. Il y a 5 ans, j'aurais pu sortir un film au cinéma qui était avec moi. Enfin, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent et tout. Et je me suis dit, ça me fait chier. Je veux pas déjà me trahir, tu vois. Donc, j'ai préféré arrêter tout le truc.
Ça faisait donc longtemps que tu bossais dessus?
Non, ça fait 2 ans.
C'est difficile de prendre ce genre de décision?
Ça fait chier. Ouais. Ça fait chier parce que tu te dis, merde, tu vois, mine de rien, tu t'as quand même le petit démon sur l'épaule qui dit, mec, quand même, prends la thune, t'auras de la presse, t'auras de la
promo. Pourquoi? Parce que si tu fais un film, c'est très bien payé?
Forcément, c'est mieux payé que quand, par exemple, tu fais un podcast sur les règles. C'est un exemple.
Ouais. Est-ce que... À un moment, peut-être plus tôt dans ta carrière, t'avais une espèce de romantisme de... justement, tu sais, quand tu parles de tes projets comme Nerds, où tu payais pas les gens, et du coup, il y avait aucun compromis, et c'est ta vision artistique totale. Est-ce qu'il y a eu une époque où tu te disais que ça allait être toujours comme ça, ou pas?
Non, je me sentais hyper mal, en fait, de voir autant de gens me suivre sans être payé, parce que je connais, tu vois, la réalité quand même. Il faut quand même payer son loyer, on parle beaucoup de thunes, hein, dans cette situation.
En fait, les épisodes sont à l'image de...
Ok.
Non, mais, je ne sais pas.
Mais
c'est parce que j'en ai pas, c'est une problématique du moment.
Ok, mais on en parle après. Mais en tout cas,
tu veux faire de la pub sur Nouvelle École?
Si tu veux.
Tu recrutes?
Tu veux que je fasse quoi comme pub? Tu veux que je fasse des tweets en disant abonnez-vous
ou tu... Non, tu pourrais passer en pré-roll de Nouvelle École et dire que tu recrutes, par exemple.
Ah, ok.
Et me donner de l'argent.
Ok. Donc je te paye pour dire que je recrute.
Par exemple.
Ok, on en parle après. C'est un bon, pour l'instant, c'est un bon deal. Je t'avoue que je suis assez appâté. Non, mais en tout cas, il n'y a aucun romantisme. J'étais plutôt plus dans la culpabilité qu'autre chose. Et puis dans une frustration de dingue, c'est que tu vois, tu fais avec les moyens du bord. T'as 15 casquettes sur le tournage. T'es auteur, réal, monteur, comédien, enfin... Tu vois, tu peux pas faire les choses bien, tu te dis, putain, ce mec qui est déguisé en monstre avec un sac à balles sur la tête et des tongs, franchement, s'il y avait un petit peu plus de budget, ça serait vraiment plus cool. Et tu vois, il y a tout un truc de frustration, les lumières, les machins. Moi, Nerds, c'est 4 saisons de frustration.
Ah ouais?
Quand je revois la série, je me dis, putain, mais les lights, l'éclairage est dégueulasse, il y a des problèmes de rythme, il y avait pas de réal qui vraiment nous dirigeait, il y a plein de trucs, plein d'idées qui sont mal exécutées parce que manque de moyens, enfin tu vois, plein de choses comme ça, des comédiens qui jouent pas bien, tu vois, tu te dis, ah putain, il y avait tellement de choses à faire.
C'est de la frustration a posteriori, mais sur le moment
sur le moment j'étais frustré aussi.
Ah ouais, t'étais frustré
ouais,
aussi.
Ouais.
Donc en fait la professionnalisation, disons, c'était un soulagement.
Ouais, complètement, bien sûr. Bah oui, parce que tu peux faire les choses mieux et surtout tu peux proposer le truc au public que tu avais vraiment en tête.
Tu vois. Parce que tu as les moyens de le faire.
Bah ouais. Sans pour autant taper dans des, tu vois, dans des milliards, mais juste avoir un peu plus de moyens, c'est tellement plus confort, quoi.
Et du coup, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de projets que tu enfouis au fond de ta tête et parfois, rarement, tu y penses, ça te frustre un peu. Et du coup, tu penses que c'est des choses qui vont rester au fond de ta tête toute ta vie, ou est-ce que c'est que ce serait quoi la solution en fait pour les...
J'en ai aucune idée. Je suis hyper jaloux quand je vois des gens qui sortent des trucs ultra couillus avec un univers et un truc très dingue, et je me dis putain, fais chier, je suis jaloux. Il y a...
Tu penses à quoi par exemple?
Dernièrement, j'en ai eu, j'oublie là, mais j'ai eu des trucs comme ça où je me suis dit merde, cette année je l'ai eu ça. Au poste de Dupieux, je me suis dit fais chier, c'est hyper couillu, c'est trop bien. Le monde est à toi dans un autre délire, mais c'est pareil, c'est très couillu en fait de proposer ça en France. Et puis après en série aux États-Unis, ils se permettent des trucs tellement fous. La saison 2 de Dirk Gently qui est vraiment folle. Il y a plein de trucs comme ça avec des univers très forts, tu vois, visuellement où quelqu'un, tu vois, dans un bureau va te dire non, ça va perdre le public, tu vois, et ben les mecs ils s'en battent les couilles et ils y vont quand même, et je trouve ça tellement cool.
Qu'est-ce qui fait que justement Dupieux ou des mecs comme ça s'en foutent à ton avis, où ils vont vraiment?
Je pense une grosse paire de baloches, quoi. Pense que c'est ça. Et puis réussir à convaincre, c'est ça la force, c'est réussir à convaincre l'entourage, tu vois, d'y aller, quoi. Parce que t'es pas seul en vrai quand tu fais un truc comme ça. T'es pas seul, t'es 200. Donc c'est cette force de conviction aussi.
Mais c'est ça qui. Est-ce que c'est ça aussi qui te fait. Tu disais tout à l'heure que tu devenais de plus en plus radical.
Bah après moi, quand on prend par exemple l'émission Crac Crac sur Canal, mon émission de sexe. Alors oui, ça parle de sexe, mais c'est 50-50, tu vois, t'as du sexe, mais t'as aussi beaucoup de blagues. Et c'est une volonté de, comme l'hétéro cette pompette, c'est un truc où je me dis, je veux un peu péter ce qui se fait en télévision et le truc un peu trop posé, ou l'exercice du talk show où on est posé autour d'une table et on rit aux mêmes blagues et on pose les mêmes questions et les invités répondent les mêmes réponses tout le temps. Tu vois, il y a ce truc où j'ai envie un peu de faire péter ça, et je suis très fier de ça dans Crac Crac. C'est, je me dis, on est dans une tonalité qui est quand même assez vénère, tu vois, pour une émission de télé. Alors, évidemment, parce que c'est une émission de sexe, mais aussi dans l'exécution, tu vois.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et en fait, c'est par rapport à ce qu'on disait juste avant, mais quand tu crées un nouveau produit maintenant, est-ce que, tout à l'heure on parlait de ce que le public va en penser ou est-ce que le public va suivre, est-ce que tu arrives à te défaire justement de ça quand tu crées? Tu vois?
Ouais, parce que joues avec. En fait, c'est soit tu te dis non, ça va, les gens vont pas comprendre et ça sert à rien et c'est trop chelou, ou c'est pas dans l'air du temps, ou voilà. Ou au contraire, tu peux te dire c'est cool parce que les gens y auraient pas pensé, ou les gens se seraient pas dit tiens je vais mater une émission de cuisine avec des gens qui arrivent pas à parler parce qu'ils sont bourrés, tu vois. Comme Crac Crac, vraiment on s'est dit c'est cool parce que le sexe, et surtout parler de la sexualité dans une société qui aujourd'hui est de plus en plus cadenassée, de plus en plus
au niveau du sexe, tu trouves?
Ouais, vachement. y a vachement de tabous, de non-dits, de même dans les familles. Et tout.
Qui n'était pas là il y a quelques dizaines d'années, tu dirais?
Ouais, en tout cas, on a cette impression-là, ouais, un peu globale. Et du coup, on s'est dit, c'est cool de proposer ça. Et puis, y a aussi ce truc en télévision où tous les animateurs de télé qui se sont frottés au milieu de la sexualité se sont grillés.
Et, ah ouais,
ouais, moi, du coup, je trouve ça cool d'y aller, quoi. Je trouve ça plus marrant. Mais oui, il y a ce truc où t'es obligé de réfléchir à ce que va en penser le public, et du coup, bah, ça, c'est bien de justement d'y aller ou de pas y aller, mais c'est un bon indicateur.
Moi, tu sais, quand je pense Monsieur Poulpe, j'ai toute une image qui vient de tout ce que t'as fait, de tout ce que j'ai vu de toi depuis des années, et j'imagine qu'en fait, toi, tu dois avoir la même image qui se construit dans ta tête. Est-ce que parfois, t'arrives à... Enfin, en gros, est-ce que parfois, t'as l'impression que ça te limite, le côté Monsieur Poulpe, il doit faire ci ou il doit faire ça, tu vois? Il doit faire, par exemple, des émissions décalées?
Non, parce que c'est naturel chez moi de faire ça, donc je me pose pas du tout la question. Après, juste, je me dis, tu vois, là, ça va faire 4-5 ans que je fais l'animateur télé. Du coup, j'ai un peu lâché la fiction, alors qu'avant, je faisais beaucoup plus de sketchs et de séries. Donc là, du coup, tu vois, j'ai accepté... je me suis dit, merde, faut pas que je montre que ça, quoi.
Pourquoi ?
Bah parce que je suis pas que animateur, donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué, mais c'est pour ça que j'ai accepté de faire des longs métrages qui sont sortis cette année. Je me suis dit, c'est important de montrer que je joue, quoi. Et puis aussi une volonté, enfin j'ai envie de jouer des personnages, tu vois, il y a ce truc là qui me manque, de composer des persos, et c'est vrai que je l'ai un peu perdu depuis 4-5 ans. Donc du coup, je me dis, bon, voilà, je fais ce parcours d'émission de télé, mais j'ai envie de revenir aussi un peu à la fiction, comme, tu vois, la BD, ça me manquait, le rapport avec le dessin et tout, donc je m'y suis remis. Et c'est plus c'est pas vraiment par rapport au public. Évidemment, il y a ce truc où il faut que je montre ce dont je suis capable et ce que je sais faire, mais il y a aussi moi mes envies, tu vois, où j'aime créer des persos, faut que je fasse gaffe aussi à ce truc là de pas trop m'enfermer, quoi.
Et justement, tu sais, depuis il y a ton surnom Poulpe, du fait que tu fasses beaucoup de choses, et depuis le début tu fais beaucoup de choses différentes, et est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit qu'il y avait un truc que tu préférais largement aux autres et que tu avais envie de faire surtout ça?
Non, en fait j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs trucs en parallèle, plusieurs projets en parallèle. Moi, je fonctionne comme ça, c'est que j'ai besoin que mon cerveau soit tout le temps en réflexion sur les trucs différents. Et du coup, quand j'ai une idée, je me dis, ah putain, ce truc-là irait bien dans tel truc, tu vois. Et ça me permet de rebondir plus facilement aussi, c'est que, tu vois, je pense à une série télé que je suis en train de créer, là. Bah en fait, je me dis, ah putain, mais ce personnage-là qui pourrait baiser avec tel personnage, en fait, c'est intéressant parce que ce type de sexualité, je pourrais en parler dans Crac-Crac. Et tu vois, ça me permet aussi de rebondir.
Fait des associations, ouais, d'idées, etc.
Ouais. Et moi, j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs projets en parallèle comme ça.
Parce que moi, j'ai plus grandi dans une ambiance de si tu fais beaucoup de choses en même temps, j'avais le sentiment qu'on me disait que j'étais dispersé, ou tu, ouais, vois, qu'il fallait savoir faire un truc hyper bien, tu sais.
Ouais.
Et comme j'ai jamais su faire un truc hyper bien, il y avait un peu un côté. Non, mais tu vois, tu t'es jamais dit ce truc-là, toi. Il faudrait que j'aille à fond
non,
dans
y
un
y
truc,
y
quelque chose.
Il y a le truc de qui est assez logique, c'est que soit tu fais un truc à 100%, soit t'en fais 5 à 20%, tu vois. Mais après, c'est une question d'orga, de rigueur. En fait, moi j'utilise beaucoup ce mot-là, mais il est horrible dans le milieu de la blague. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir de la rigueur dans le travail et d'avoir un cadre pour pouvoir créer de la merde. Et moi, je fonctionne vachement comme ça, c'est que je me crée pour chaque projet vraiment des grosses structures, tu vois, des gros trucs, et après, dedans, je peux faire nimp.
C'est intéressant, ça.
Bah, dans ma tête, en fait, moi, j'ai vraiment besoin, et puis tu le vois, j'ai des tableaux partout, tu vois, j'ai besoin de tableaux dans tous les sens, parce que si j'ai pas ces trucs-là d'ordre, je peux pas tenir avec plusieurs projets, tu vois, en même temps. Et donc du coup, j'ai besoin de vraiment d'une très grosse structure pour faire du caca.
Mais c'est quoi ta vie justement? Comment tu t'organises en fait?
Ben là, par exemple, sur Crac-Crac, on est sur une production de 4-5 mois pour fournir 8 fois 45 minutes. Donc c'est assez intense. Et du coup, je vais vraiment être pendant 4-5 mois, je vais être en moine guerrier. C'est que je vais quasiment pas boire d'alcool. Je vais manger hyper sainement. Je fais du sport. Je fais beaucoup de sport tous les matins. Je fais du sport chez moi. J'ai un coach deux fois par semaine. J'ai besoin d'avoir des trucs très...
Tu fais quoi comme sport?
C'est vraiment de la merde.
Du workout, quoi?
Ouais, non, je fais cardio, muscu de base. Mais j'ai besoin, tu vois, d'avoir un truc un peu... ouais, moine guerrier, je le vois comme ça.
Ça a toujours été comme ça? Ou c'est...
De plus en plus. Parce que les projets, parce que j'ai de plus en plus de projets qui sont de plus en plus gros. Donc j'ai besoin d'être de plus en plus focus, quoi.
Et t'as combien de projets en parallèle en général?
Ça dépend.
Est-ce que tu bosses, par exemple, quand tu dis je vais être en mode moine guerrier sur ton émission, est-ce que c'est, tu bosses que là-dessus pendant 4-5 mois?
Non, j'ai, en général, j'ai 4-5 projets en parallèle. Et après, selon comment ça roule, je laisse rentrer des trucs externes. Tu vois, par exemple, toi, t'es un truc externe, tu vois. Il y a des fois où je peux absolument rien faire d'autre. Tu as des propositions de pub, par exemple, on me propose souvent des pubs, j'en fais quasiment pas parce que j'ai pas le temps. Ça me fait chier dans l'absolu parce que évidemment que c'est super d'avoir de l'argent, mais en vrai, je m'en fous dans l'absolu d'avoir de la thune, donc je vais pas en faire une priorité. Donc je vais le tège quand je peux pas en faire. Des projets de comédien pour d'autres personnes, tu vois, on me propose des rôles très souvent dans des trucs, quoi. Je refuse parce que je me concentre sur mes projets à moi qui sont plus importants, quoi.
Donc en fait, t'as des périodes où t'es complètement en mode monastique,
ouais.
Et des périodes où tu t'ouvres plus et
ouais.
tu recharges en gros les batteries, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Et là, tu vas plus laisser le monde extérieur rentrer, comme ouais. Je sais pas, le podcast par exemple,
ouais.
ou de la pub, des choses comme ça, ou
ouais.
la fête par exemple.
Oui, ouais, ouais, carrément. Carrément. C'est ça.
Ouais.
T'as bien résumé
et,
ma vie.
Et quand t'es dans ce mode justement monastique, disons appelons-le le mode monastique.
Moi j'appelle ça moine guerrier, mais
ouais,
okay.
C'est ça. Il y a pas un côté psychologiquement difficile au fait de justement de pas faire d'écart de.
Non, parce que je le prends comme en fait je prends de la hauteur sur mon année. Je fonctionne par année, tu vois, où je me dis cette année je vais faire ça, ça, ça et ça. Et
chaque fois au début de l'année tu te dis ça?
Ouais.
Tu te dis j'aimerais bien faire ça cette année.
Je me donne des plans, tu vois, parce que sinon ça n'a aucun sens d'avancer, quoi. Donc je me dis il faut que je fasse ça cette année et ça va me prendre tant de temps et tout. Et je vois ça comme des tunnels, tu vois. Là par exemple les 4 mois qui arrivent, ça va être un tunnel où je vais me lever tous les matins, je vais sortir mon chien, faire du sport, manger un œuf, venir au bureau, enfin tu vois, ça va être la même chose tout le temps. Et puis je sais qu'au bout du tunnel, il y a une chouille de l'espace qui m'attend. Avec beaucoup de vomi, et j'attends ça avec impatience, et ça sera mon petit sucre, tu vois, de récompense.
Tu gardes en tête la récompense pour...
Évidemment.
Ouais.
Bah ouais. Sinon, tout ça n'a pas de sens. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même un peu du kiff dans tout ça, quoi.
Et du coup, t'arrives vraiment, tu te lèves genre super tôt.
Ouais.
Tu te couches super tôt.
Ouais.
Tu fais jamais d'écart.
Non, je me couche pas tôt. Heureusement qu'il y a la PS4 avec Rainbow Six Siege qui existe.
Tu joues encore beaucoup?
Non, mais c'est en fait comme je sors pas pour pas boire et pas bouffer, du coup je joue. Tu vois.
Ah, tu veux dire qu'il faut quand même un truc pour se détendre.
Ouais, faut que je déconnecte un peu mon cerveau quand même. Ouais.
Ouais, parce que je trouve que c'est ça un peu le parfois qui est problématique, c'est le côté où quand tu bosses pour toi, disons, tu peux ne jamais t'arrêter de bosser.
Ouais. Non, faut couper. Après, les gens coupent en sortant, ce que t'as fait hier soir. Moi, comme je peux pas pour des histoires de bide et de corps pas trop dégueulasse à l'image, du coup, ça, c'est les jeux vidéo. Ouais. Mais il faut se déconnecter un peu, c'est important. Sinon, tu peux pas. Et puis même aussi laisser rentrer un peu de la. Je peux pas parler de culture en parlant de Rainbow Six Siege, mais laisser rentrer un peu de culture dans ta tête pour pouvoir rebondir et ensuite pouvoir reproposer des idées derrière.
Ouais, parce que si ton travail c'est de créer, est-ce qu'il y a pas un, si tu t'organises, moi c'est quelque chose que je me dis souvent, si tu t'organises de manière super draconienne, est-ce qu'il y a pas un risque en fait que tu laisses plus entrer les, parfois c'est des petites idées qui rentrent et qui déclenchent quelque chose.
Après chacun un peu son truc dans la création. T'as ceux qui, par exemple, s'obligent, je connais beaucoup d'auteurs, qui s'obligent à avoir le lundi matin où ils vont se taper une expo, un film, un machin, et ils s'abreuvent comme ça, mais de façon... ouais, c'est du travail, tu vois, ça devient du travail que d'aller s'abreuver. T'en as d'autres qui se barrent en week-end le plus possible et vont voir des trucs. Moi, je fonctionne... En fait, c'est pas ça qui m'inspire, en fait, c'est pas la culture qui m'inspire. Moi, c'est plus les gens dans la rue, dans les supermarchés, dans les machins. Moi, j'observe vachement plus les gens. Ça me vient plus de là, en fait, mon inspiration. Donc, du coup, j'ai pas besoin de me barrer ou d'aller me taper des expos. Après, évidemment, quand on va se taper une expo, il y a forcément des trucs, mais moi, c'est plus la street qui m'inspire.
Je regardais tout à l'heure, j'ai quand même préparé cette discussion. Et je regardais.
L'arnaque. L'arnaque totale.
Je regardais un.
Et je suis sur ton Wikipédia. Et je
me dis... mais tu sais, souvent, quelque chose que j'ai remarqué avec que ce soit tes sketchs ou tes vidéos, c'est qu'en fait, c'est assez clivant.
Ouais, c'est vrai.
Il y a pas mal de gens qui adorent, et il y a pas mal de gens. Et d'ailleurs, je prends un exemple, c'est que je regardais ton sketch sur les sourds,
ouais,
qui moi m'a fait énormément rire, donc je l'ai envoyé à deux personnes. Mmh. Il y en a une qui m'a dit c'est génial, je suis mort de rire, l'autre qui m'a dit c'est vraiment nul.
Ouais,
et
ouais,
je me suis dit tiens, c'est marrant. Alors après, je suis allé voir les commentaires des autres vidéos, et c'est un peu pareil. C'est alors que tu sais, parfois tout le monde fait ah c'est sympa, ou et toi c'est vraiment c'est génial, c'est trop nul, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais remarqué ou que tu...
On l'adore, on le déteste. En tout cas, une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent. non, mais c'est marrant le mot clivant. Je m'étais jamais dit ça, mais ouais, c'est vrai, j'ai un humour clivant. Non, je pense que c'est... à partir du moment où tu te dis que tu vas proposer quelque chose de différent et d'aller dans de l'humour autre, je dis pas forcément que je fais de l'humour trash, mais je fais de l'humour autre. À partir de là, tu sais que tu vas pas toucher tout le monde. Tu sais que c'est un combat perdu d'avance que de vouloir remplir le Stade de France. C'est pas possible. Dans moi, mon truc, je sais que je ferai jamais des films qui dépasseront le million, tu vois, d'entrée. C'est impossible. Je sais que je ne ferai pas de talk show sur TF1. Mais je l'ai accepté, tu vois. Évidemment que j'ai des envies de grandeur comme tout le monde, tu vois. Mais
c'est quoi tes envies?
Non, mais de succès populaire, ouais, tu vois. Je pense que l'artiste qui dit non, je veux pas que les gens, bon, bah, reste chez toi et fais pas chier, tu vois. Mais donc non, je sais que j'aurai jamais de grand succès populaire, mais au moins je sais que les gens qui vont aimer mon travail vont le kiffer, tu vois, et vont se dire ah putain c'est cool, c'est cool, c'est différent, c'est cool. Et du coup je me dis que j'ai le meilleur public du monde, parce que ça veut dire que j'ai un public qui sait faire la part des choses, j'ai un public qui sait prendre de la hauteur, qui sait comparer les choses et qui du coup sait accepter et rire de ça. Et du coup je me dis bah c'est chambé, j'ai les meilleurs gens du monde qui me suivent, donc j'ai beaucoup de chance en fait, donc ça me va. C'est cool.
Ouais, c'est presque même un bon indicateur, non, dans le sens où s'il y a des gens qui te détestent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est là.
Non, après je fais pas des choses pour qu'on me déteste.
Non, bien sûr, c'est pas ce que je disais, mais tu vois le côté.
Après, je comprends. Je me suis fighté avec une meuf. Je réponds jamais en plus à ça, mais il y a une meuf qui m'a envoyé un message privé sur Instagram qui me disait ouais. Qui m'a sorti un truc. En plus, c'est horrible parce que quand on me sort des références à ce que je fais, j'ai fait tellement de trucs que je m'en rappelle pas. En fait, c'est un peu horrible. Et elle me dit ouais, cette blague sur les roues. Machin. Je me rappelle pas avoir fait cette blague sur les roues, mais je l'ai fait sûrement. Et elle me dit ouais, c'est injuste. On en a marre d'être discriminé. Et je lui dis mais meuf, dans l'absolu, évidemment, t'as raison, évidemment. Mais ton message, il est complètement con. Je suis désolé, mais ne va pas dire ça à moi. C'est tellement pas la bonne personne à qui dire ça. Tu peux le dire à plein de gens, mais moi c'est mon taf en fait de faire ça, de faire de la blague. Je fais pas de la blague exprès qui se moque des différences. Je pense qu'on est tous différents, donc c'est juste des blagues, tu vois. Ça va être une blague sur un roux comme sur un Renoir, comme sur un mec qui a un grand nez, comme sur un mec qui a un pantalon trop court. On a tous des différences à tous les niveaux. Donc évidemment que des gens vont pas être contents de ce que je fais, et c'est normal puisque je fais des trucs qui je fais pas de l'humour moqueur, mais oui ça se moque, tu vois. Et donc typiquement le sketch sur les sourds, en fait je me suis dit quand j'ai eu l'idée de ce sketch-là, de ce personnage-là, en fait, je me suis dit, mais c'était à l'époque où je voulais faire un spectacle de stand-up et en fait, ça demande trop de temps et j'ai pas le temps de le faire bien. Donc, j'ai 4 sketchs, tu vois, sur une heure. Et, j'ai vu beaucoup de stand-up à un moment parce que je me suis intéressé à ce truc-là et je me suis rendu compte que, tu vois, sur un gala de 10 humoristes, je l'ai constaté la première fois que je suis monté sur scène tout seul, en fait, pour un sketch. Sur 10 humoristes, il y avait 8 mecs qui faisaient du stand-up qui parlaient de la branlette. Il y avait une meuf qui faisait un sketch pour parler de je sais plus quoi. Et moi, je faisais un personnage qui vomissait sur scène. Et je me suis dit, en fait, j'ai tellement pas ma place dans ce truc-là qu'il faut que, en fait, j'essaye pas de faire du stand-up, je sais pas le faire. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc qui ne se fait pas et qui n'existe plus. Et qui est même devenu un peu ringard, c'est les personnages. Tu vois plus de personnages sur scène. Et donc, je me suis dit, je vais faire un personnage et autant aller jusqu'au bout. On ne se moque pas du handicap sur scène. C'est très mal vu. Je me dis, l'exercice est hyper intéressant de jouer un handicapé et de jouer du handicap et que cet handicapé déteste les handicapés, tu vois. Et je trouve ça intéressant de faire un sourd, de jouer sur le fait que, ben, un sourd en stand-up, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'entend pas les rires du public, il n'entend pas. Donc, je trouve ça, en fait, mine de rien, même si, en fait, il y a un peu de la réflexion là-dedans, en fait, c'est que c'est un peu injuste. En fait, le handicap marche pas forcément sur scène, certains handicaps. Et puis qu'en plus, ils détestent les aveugles, je trouve ça cool, tu vois. Donc, voilà, moi, après, je suis content parce que j'ai eu beaucoup de rires. C'était à Montreux quand je l'ai joué. C'est un public qui est assez difficile dans une salle qui est pas du tout faite pour de l'humour. C'est un truc de jazz à la base, donc c'est acoustiquement c'est compliqué. Et en fait, j'ai eu plein de rires et tout, donc c'était charmé. Après, oui, je suis allé mater sur le YouTube les commentaires et donc déjà il y a des gens qui pensent que je suis vraiment sourd. Ensuite, il y en a d'autres qui disent waouh, quel courage pour quelqu'un sourd de monter sur scène. Non, puis il y en a d'autres qui disent ouais, c'est horrible de se moquer du handicap. Et bah oui, bien sûr, c'est horrible de se moquer du handicap. Effectivement. Après, je pense qu'on peut quand même faire des blagues dessus.
Mais ouais, justement, c'est pas souvent dans ces zones un peu rouges que
bien
c'est
sûr.
Très drôle.
Ben ouais, bien sûr.
Et du coup, est-ce que ça te fait pas est-ce que t'as pas peur un peu quand tu commences à creuser proche de ces choses-là? Est-ce que tu te dis pas ben justement, t'as pas peur de ça, des gens qui détestent ou des gens qui t'en veulent?
Non, mais parce que non, pas du
ou
tout.
Ou même des gens qui seraient par exemple dans ton milieu et qui trouveraient que ça c'est.
Mais il y en a plein. Moi, j'ai des potes qui me disent ah, cette blague, elle était un peu too much et tout. Mais voilà, mais après, ça fait partie du jeu, tu vois. Tu peux pas monter sur scène et avoir la prétention de dire que t'es drôle et qu'en face tout le monde t'aime. C'est pas possible. Tu dois accepter ça.
Ouais. Puis est-ce que ça existe du coup une blague too much?
Il y en a 1000.
Enfin, il y a des mauvaises blagues parce que c'est pas.
Ben ouais, en fait, surtout maintenant, pas dans le sens où c'est compliqué de dire des choses vénères parce que tout le monde monte au créneau, les assos, les machins, mais surtout que tu te pointes en 2018, t'as 50 ans de blagues qui ont été faites déjà. Mmh. Donc tu peux pas. Tu vois, par exemple, Tex qui fait une blague sur les femmes battues à TPMP, moi, cette histoire, elle m'a vénère parce que. On le sait, en fait, que c'est relou, que c'est une blague relou. On le sait. C'est pas que la blague est horrible. C'est juste que on l'a déjà entendu 15 000 fois. Ça sert à rien de monter au créneau en disant, cet homme est le diable, il fait des blagues sur les femmes battues. C'est juste que cette blague est pas drôle. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et du coup, quand tu vas dans des zones rouges, ce que t'appelles les zones rouges d'humour, où tu veux faire des blagues un peu vénères, ben, faut pas que tu te dises, je suis le mec le plus drôle du monde, et je vais dire qu'une femme qui a un bleu, ça va bien avec son pull qui est vert. Bon, c'est de la merde, tu vois. Il faut que t'ailles un peu plus loin et que tu te dises, ben, je vais réfléchir et je vais essayer de, ben, c'est un travail, quoi. J'essaie de travailler pour trouver une blague plus cool.
Parce que ça a déjà été fait et que du coup, c'est devenu ringard, c'est
ça?
Ben
ouais. Mmh. Ouais, et puis c'est plus drôle, tu vois. Enfin, faut trouver autre chose, quoi.
Est-ce que parfois t'as l'impression de refaire des trucs que t'as, ou t'as peur de refaire des trucs que t'as déjà fait? Alors, toi, parce qu'il y a les trucs que les autres ont déjà fait dans le passé.
Ouais.
Et puis il y a toi, quoi. Est-ce que parfois t'as l'impression que tu reprends ta recette un peu sans faire exprès, tu sais?
Ouais, mais en fait j'aime ça. Je sais, hein, je m'en rends compte. Il y a des trucs que je fais où c'est un peu. Mais j'aime ce truc-là. J'aime jouer des personnages difformes. Et je l'ai déjà fait plein de fois et je continue, tu vois. Et j'aime. Il y a des phrases qui me font rire que je redis 10 000 fois, tu vois. Il y a des trucs. Il y a un mot, en fait, des mots, par exemple, que j'aime dire.
Comme quoi?
Panini. Je trouve ce mot très drôle. J'adore dire panini. Si tu, en vrai, si t'analyses toute ma création depuis le début, je pense que t'as 5000 fois le mot panini, tu vois. Et il y a des trucs, ouais, qui reviennent, mais, je trouve ça, alors il y a des trucs que je fais pas exprès. Et après, je m'en veux, je me dis merde, j'ai pas fait exprès, j'ai déjà dit ça, et voilà. Mais je trouve ça, même plutôt, c'est un peu mes charentaises de la blague, tu vois. Il y a des trucs que j'aime bien réutiliser, mais c'est pas des pures blagues que je réutilise, mais des ambiances, tu vois. Après, il y a la blague que je réutilise tous les ans sur Twitter, oui, pour la journée des droits de la femme. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, non, je réutilise pas des blagues pures, je réutilise des ambiances.
Est-ce que ça t'affecte ou est-ce que ça entre dans ta tête, par exemple, quand tu fais la même blague tous les ans sur Twitter?
Ouais.
Twitter, c'est le réseau social, qui est pas le plus connu pour sa bienveillance, disons. Qu'il y ait des gens, mais même par exemple, quand tu avais fait un tweet sur Budapest, sur parce que c'était, ça avait été la semaine de, donc Budapest, c'est un film dans lequel t'as joué,
oui,
qui est sorti la semaine globalement du bac, de la Coupe du Monde et de
l'horreur,
voilà, ouais. Et donc c'est la semaine où je crois il y a eu le moins d'entrées au de cinéma l'année, de l'année, ouais. Et t'avais fait un tweet qui est un peu semi-ironique, genre, ouais, que ça te foutait les boules, etc. Et en fait tout le monde l'a pris team premier degré,
ouais. En fait, c'est marrant parce que bon, ce truc-là. Après, vu les retours, je pense que j'ai été maladroit sur le truc de Budapest. Je pense que la blague a pas été assez fine en disant que si c'était comme ça, j'arrêtais Recette Pompette, puisque apparemment les gens se sont sentis menacés. Ce qui est ok. Bon, donc j'avoue, je peux comprendre que j'ai mal tourné le truc, même si ça restait une blague et que vraiment les gens sont très cons. Mais après, ce truc de la journée de la femme, où en gros c'est un tweet que je fais chaque année depuis 7-8 ans, je crois, où je dis chaque année, par respect pour la femme, je vais me masturber en pensant à chaque femme de la planète, qui est une blague débile, puisque du moment où on imagine un mec se branler en pensant à toutes les femmes, je pense que très rapidement on sait que la peau va être brûlée, la peau du pénis va être brûlée. Donc voilà, c'est une blague débile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, je le dis comme chaque année. Voilà mon tweet. Je dis comme chaque année. Et bizarrement, cette année, c'est parti en couille. Alors pourquoi cette année et pas les autres années? Moi, mon tweet, il a jamais changé, tu vois. Ma blague n'a jamais changé. C'est les gens qui changent, en fait. Enfin, c'est pas les gens qui changent, c'est la twittosphère change. Et cette année, la twittosphère est ultra vénère. C'est pas moi qui le dis, il y a énormément de gens. Je mate maintenant, je suis plus observateur, tu vois, de Twitter. Je regarde le truc et je vois énormément de gros comptes Twitter qui disent, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ça en devient une blague. Ça en devient un truc de, ah là là, pff, décidément, c'est vraiment la planète des gens qui se détestent. Ben, c'est pas drôle, en fait, c'est juste des gens qui se détestent, tu vois, donc c'est pas intéressant. Mais il y a de plus en plus de célébrités qui ferment leurs comptes aussi cette année. Donc il y a un vrai truc qui se passe sur Twitter. Je pense que les gens se rendent pas encore compte, mais je pense que ce média est en train d'arriver au bout de sa vie. Mais en tout cas, oui, ce tweet, moi, il a jamais changé depuis 8 ans. Mmh. Et puis avant, les gens riaient. Et puis cette année, il y a... Après, il faut savoir, moi, il y a un truc qui est intéressant, tu vois, c'est que dans cet enfer que j'ai vécu d'une semaine où je me suis fait insulter sur Twitter, je crois que je me suis pris, en fait, pas tant d'insultes que ça, genre 1000 tweets, tu vois, d'insultes. Ce qui peut paraître beaucoup,
ouais.
Mais en fait, j'ai pris 20 000 followers. Tu vois, j'ai gagné 20 000 followers. Donc oui, il y a des gens qui gueulent, mais en fait, il y a une espèce de grosse masse invisible qui, en fait, trouve ça marrant et qui s'abonne à mon compte en se disant, bah, tiens, c'est marrant, je lirai ces autres blagues. Voilà.
Ouais, mais toi, est-ce que ça peut pas, à un moment, presque brider ta spontanéité, puisqu'en plus c'est quand même un truc qui fait beaucoup partie de ta marque de fabrique, tu vois.
Ouais, mais après
de lâcher des trucs comme ça, est-ce qu'il y a pas un moment où
Je le fais moins. En fait, je le fais moins sur Twitter parce que je vois bien que c'est devenu un terrain de jeu un peu compliqué. Tu vois, je vais pas aller en slip à Kaboul, par exemple. Tu vois, avec un nez de rouge de clown et une guitare sèche et jouer des petites chansons. Tu vois, bon bah c'est pareil sur Twitter. Je vais pas aller faire des blagues sur Twitter. Par contre. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai testé, en fait. Je l'ai testé en août. J'ai mis une vidéo sur Instagram et j'ai mis la même sur Twitter. Et en fait, sur Instagram, j'ai eu énormément de réponses positives. Genre, j'ai gagné du follower, du machin truc. Et sur Twitter, j'ai eu plein d'insultes, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est juste que ce terrain de jeu-là, il pue la merde. Et puis en fait, Instagram, c'est hyper bienveillant, c'est hyper cool. Et là, je me suis mis à faire beaucoup de posts sur Instagram, de photos, de vidéos depuis cet été. Et c'est hyper cool. Les gens, enfin, j'ai plein de retours trop bien, c'est quoi.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'était remis à faire ça. Ouais.
Et puis
est-ce que c'est l'environnement qui est plus cool, du coup, ça permet la spontanéité plus, c'est ça?
Complètement. Complètement. Tu vois, là, l'autre jour, je me baladais, il faisait beau, j'étais dans une rue vide. Je me suis dit, putain, on dirait vraiment une rue de tournage de clip de Christophe Maé, quoi. Et j'ai demandé à ma meuf de me filmer vite fait. Et puis, alors, je suis rentré chez moi, j'ai fait une chanson de merde, j'ai fait le clip, et puis je l'ai mis, et puis voilà, je crois que c'est à 100 000 vues, c'est cool, tu vois, 100 000 likes. Et ouais, il y a cette spontanéité-là qui est hyper agréable, et où tu sens que les gens, ils sont friands de trucs marrants et frais, et voilà, donc c'est super.
C'est important de faire les choses immédiatement quand t'as l'idée.
Bah, je viens de là, moi, tu vois, je viens de, quand tu parlais de ma première vidéo sur le net en 98, c'était ça, c'est qu'il y a cette immédiateté, dont je viens, où c'est compliqué quand là je m'attelle à faire du cinéma, où tu te manges 4 ans de développement dans la gueule avant qu'un truc sorte, tu vois. Donc c'est évidemment que si en une heure je peux faire un clip débile, c'est vraiment cool.
Comment tu définis si ça se passe bien dans ta vie, genre, tu vois? Non, mais comment est-ce que t'es satisfait ou...
Ben moi j'ai pas de... Moi j'ai des besoins simples en fait, donc ça va, tu vois. J'ai mon chien qui est super. J'ai un appart cool, c'est un cocon, tu vois. Moi je fonctionne par cocon, donc j'ai mon lien, j'ai mon appart, j'ai une meuf cool, j'ai pas de problème d'argent, donc j'ai pas de prétention à avoir de l'argent, mais en tout cas j'ai pas de problème quand je veux faire mes courses, donc voilà, ça me suffit. Donc je suis très content.
Est-ce qu'il y a eu des périodes où par exemple tu te marrais moins et où tu dois changer des choses, tu vois?
Ouais, bien sûr. Bah, il y a des. La vie, c'est une construction, tu vois. Donc, c'est une grande partie de l'ego, en fait, la vie. Donc, du coup, il y a des moments où j'étais pas bien et il me manquait des pièces, en gros. Mais après, j'ai dû me taper du psy 4 fois par semaine.
4 fois par semaine.
Ouais, j'ai dû me taper des médocs à certaines périodes de ma life, tu vois. Mais non, j'ai eu des phases sombres. Mais après,
pourquoi elles arrivent, ces phases sombres, en fait?
Bah, c'est pour plein de raisons différentes. T'as déjà toi. Et puis après, t'as les trucs en face, t'as le taf qui s'écroule, histoire de rupture, des trucs de familiaux, tu vois, il y a mille raisons pour que une vie, c'est quand même fragile, tu vois, dans notre société, c'est quand même, on dit souvent qu'on est des gens fragiles et sensibles, mais c'est vrai, tu vois, on est élevé pour être fragile et sensible. Et du coup, je parle pas élevé dans ta famille, mais dans notre société, tu vois, on est quand même très assisté et très tu peux vite vriller, tu vois, dans le côté sombre. Et donc après, moi, je pense que je sais que ça remonte toujours. Je sais qu'il y a toujours un moment où t'arrives au fond de la piscine et tu peux rebondir. Et puis ça passe par, quand je parle de construction, ça passe par des trucs. Moi, j'ai trouvé mon truc, tu vois. C'est du sport, c'est un chien. J'ai pris ce chien vraiment pour aller mieux, tu vois. C'est un cocon bien, un appartement, tu te sens bien. J'ai eu plein d'appartes sombres, bas de plafond. C'est des terreaux à dépression, tu vois. Donc il faut faire gaffe à ça, à ton cadre de vie, ce qui, selon toi, te fera aller bien. Et puis comme ça, t'avances et c'est cool.
En fait, petit à petit, tu découvres les éléments qu'il faut que tu places, c'est ça?
Bien sûr. Bien sûr, tu mets, je pense, la moitié de ta life à comprendre qui tu es et qui tu veux être, tu vois. Et c'est le chemin à qui tu veux être qui est le plus compliqué, mais...
Toi, qui tu veux être, alors?
Je commence un peu à arriver à qui je voudrais être. Je suis bientôt ce DJ en slip de bain à Ibiza, avec un mulet.
Mais une fois que t'es qui tu veux être, après tu fais quoi?
Bah après, le jeu, c'est...
Rester qui tu
veux être. Ouais, je sais pas. Je pense qu'après, c'est kiffer, en fait.
Ouais.
Je pense que c'est kiffer. Je pense, je sais pas.
Bah, merci beaucoup.
Attends, moi, j'ai des questions.
Ah, vas-y.
Pourquoi t'as eu l'envie de faire ce truc?
Ah, donc on inverse?
Ouais.
Ok, bah, parce que, justement, moi, j'étais dans une période En fait, j'ai commencé ce truc parce que je voulais monter mon projet, être entrepreneur, être indépendant, mais à l'époque, je le faisais pas très sérieusement, tu vois. Et j'ai monté une boîte, du coup, et j'étais là. Et en fait, j'étais pas du tout heureux dans ce que je faisais, ça me ressemblait pas, tu vois. Et j'ai tout quitté, j'étais dans une relation amoureuse qui marchait pas, c'est un truc, ça marchait pas, j'étais très mal. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'aller poser des questions aux gens pour qu'il y avait
quel âge à ce moment-là?
Ah bah non, mais c'était il y a 2 ans, donc j'avais 24 ans.
D'accord.
Et d'aller voir les gens qui avaient l'air d'avoir des vies cool et justement de faire ce qu'ils aimaient. Non mais c'est vrai.
Ouais.
Des gens qui avaient l'air de faire ce qu'ils aimaient, parce qu'en fait, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des gens qui faisaient ce qu'ils aimaient. Moi, je croyais que c'était pas vrai en fait.
Ouais.
Et d'aller leur poser des questions, enfin bah comment tu fais? Comment tu fais pour faire des trucs que t'aimes? Comment tu vois? Comment tu fais pour te lancer? Comment tu fais pour pas avoir peur de rater ou de ce que les gens vont en penser, parce qu'en plus moi, je venais pas du tout de ça à la base, mais j'avais fait ensuite une école de commerce. Et après, une fois que t'es rentré là-dedans, il y a un peu un côté où t'as l'impression que ça te définit.
Formaté.
Tu peux plus, mais que tu peux plus genre faire des vidéos de toi qui raconte de la merde et espérer en faire ta vie, tu vois.
Ouais.
Alors qu'en fait, si tu peux, mais il faut déconstruire ce truc. Mmh. Et ça m'a servi à ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça.
Et c'est quoi ta plus belle rencontre dans Nouvelle École?
En fait, ça marche pas comme ça parce que c'était selon des contextes. Donc en fait, j'ai plein de trucs, de moments incroyables, mais c'est à chaque fois selon un contexte, parce qu'il y a des moments où, par exemple, quand je sortais de ma période super difficile, je sais qu'une fois, j'avais fait un épisode avec Marina Rollman,
ouais,
et on avait parlé de dépression et tout, et par exemple, c'était un moment de dingue pour moi, parce que je sortais de ça, et donc d'en parler, c'était... Après, une fois, j'ai interviewé Gringe, tu sais, le pote d'Orelsan, et juste, j'étais trop fan de Gringe et d'Orelsan en grandissant, donc c'était un moment de dingue, tu vois, mais pour des raisons différentes. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, où même Antoine de Maximi, ou par exemple l'interview avec Rémi Gaillard, où on marche dans la rue parce qu'il veut pas faire une interview normale, du coup je lui cours après dans la rue avec des micros. Bah c'est marrant parce que c'était un mec que je regardais quand j'avais 14 ans sur YouTube, enfin ou sur internet.
Et qui c'est qui t'a le plus surpris, où tu vois, t'avais une image préconçue et en fait tu t'es dit ah putain en fait.
C'était au début que j'avais des images préconçues, mais donc c'est des gens qui te parleront pas. Après, j'en avais moins. Je sais que Kian Kojandi m'a vachement impressionné, pas surpris, mais impressionné, tu vois. Genre, j'étais là, putain, il est chaud, tu vois, Kian Kojandi. Non, mais tu vois, vraiment, genre, quand je discutais avec lui, j'étais là, j'avais l'impression qu'il avait traité toutes les infos.
Ouais.
Tu sais? Que à chaque fois que je lui posais une question, il avait réfléchi au truc, il me le sortait, alors étape A, étape B, étape C, tu vois.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça vachement impressionnant.
Ouais, il est très cérébral, Kian. Écoute, là, c'est l'émission, combien?
Ça va être l'épisode 81, 2, je sais pas.
Ah ouais, 82, ouais, merde. J'allais te proposer de t'interviewer toi pour l'émission 100, tu vois.
Ouais.
Mais du coup, c'est dans pas longtemps, donc c'est nul.
C'est quand même dans 20 semaines.
Bon, on fait la 150, pour espacer un peu le
si
truc.
Si je vais jusque là.
Ok.
Cool. Okay. Bah merci.
Merci Nouvelle École.
Attends.
Non, oui.
Oui, c'est bien de dire merci Nouvelle École.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi ou,
Ils ont écouté tout ça, tu crois?
Ah, c'est certain.
Ok.
Une fois Carlito a dit un message absurde. Tiens, un peu. Enfin, moi. Carlito a dit un message absurde. Donc, scaphandre ailé au cumin, je crois.
Ok.
A tweeté par les gens qui avaient écouté ou à mettre en commentaire. Et
ah oui.
Je reçois tous les jours des tweets qui disent scaphandre ailé au cumin.
Non, moi, je pense si j'avais un message. Ça serait aimez-vous les uns les autres, surtout aimez les différences des autres. Et si je devais dire un mot pour que les gens le reprennent sur Twitter, je dirais infrastructure en fer forgé, qui va assez bien avec mon message.
Et donc, si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils vont?
Bon, ils se démerdent, il y a Internet. Hein.
Voilà, bon, d'accord, t'as raison. Merci.
Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/nouvelle-école-podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle École.
à l'ancienne.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.